Nous prions que tu ouvres nos yeux et que tu ouvres notre compréhension, que tu brilles dans nos cœurs et que l'Esprit parle aux églises et à chacun d'entre nous. Retire la dureté. Nous ne voulons pas être durs à comprendre, mais adoucis nos cœurs. Nous voulons réagir promptement à ta parole vivante et que dans chacune des réunions, tu nous parles dans notre vie quotidienne, dans toutes les circonstances, que l'onction puisse vraiment nous éclairer. Nous prions les uns pour les autres. Nous croyons en toi. Et nous te louons pour l'onction sainte. Louons Dieu. Oh, vraiment, nous te louons. Bénis notre communion. Abba, Père. C'est vraiment magnifique de voir qu'on doit être séparés. Ces dernières 50 années, je peux vous témoigner dans mon expérience que j'ai été souvent séparée. Pas juste une fois, mais plusieurs fois. Parfois, je suis partie de moi-même. Parfois, j'ai été mise dehors. J'ai été chassée. Louez le Seigneur. Mais parfois, j'ai dû partir. Parce que c'était tellement terrible. J'ai dû prendre cette décision. Père, je veux te suivre. C'est presque devenu une habitude. Oui, de laisser ça derrière. Père, je veux te servir. Je dois laisser ça derrière. Ça devrait être notre expérience. C'est pas une doctrine. Nous devons être ceux qui suivent l'agneau, pas juste un jour. Et le lendemain, tu fais ce que tu veux. Mais très souvent, tu dois le chercher et le suivre. Parce que pour le suivre, tu dois être centré sur lui. Souvent dans le Cantique des Cantiques, on voit qu'il est parti. Et la personne qui aime vraiment le Seigneur va réaliser, où est-il? Il est parti. Mais souvent, dans notre vie quotidienne, il est loin. Et ce n'est pas bon. S'il est loin, on doit se demander où il est. Si je pars, ma femme va demander, mais il est où? Et puis si ma femme part, moi je vais me dire, mais elle est où? Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Le Seigneur ne va pas te dire, oh, je pars juste quelques minutes. Bien sûr, il disait à ses disciples, je vais à tel ou tel endroit, parce qu'il était physiquement présent. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui suivent l'agneau qui doivent y prêter attention. Il demande une certaine attention de notre part. Qu'on puisse vraiment sentir sa présence. On doit prêter attention pour suivre l'agneau. Où est-ce qu'il demeure? Mais souvent, on ne prête pas attention. On doit prêter attention. Parce que s'il est parti et toi tu es toujours là, ce n'est pas très bon. On ne doit pas rester dans une place juste à cause de la tradition. Ça, c'est l'endroit. Non, il y a tellement d'endroits, c'est peut-être pas la place. Mais les gens pensent, ah, ça c'est le lieu. Ça, si c'est le lieu aujourd'hui, ça l'est pour toujours. Ça dépend. Combien de fois as-tu déménagé? Je sais pas si t'as souvent déménagé. Moi, j'ai déménagé je ne sais plus combien de fois. Si tu as mon ancienne adresse, tu ne me trouveras pas. J'ai déménagé si souvent que j'ai perdu le décompte. Et on doit suivre l'agneau jusqu'à ce qu'on ait une. Jusqu'à ce qu'on soit unis à lui sur le mont Sion. Si tu ne prêtes pas attention à le suivre, c'est pour ça que le Seigneur a dit aux disciples, non pas crois en moi, mais suis-moi. Croire, c'est une chose, mais le suivre, c'en est une autre. Et pour le suivre, tu dois expérimenter une séparation après l'autre. Peut-être que tu l'as suivi en dehors de l'Égypte, mais tu dois maintenant continuer à travers la mer Rouge. Et quand tu as traversé la mer Rouge, tu dois continuer jusqu'à ce que tu arrives au bon pays. Beaucoup sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils sont morts dans le désert. Ils n'ont même pas pu attendre 40 jours pendant que Moïse était sur la montagne. C'est pas long, 40 jours. Alors qu'ils avaient tellement vu. Et là, ils n'ont pas pu attendre. Aujourd'hui, on doit être un peuple qui suit l'agneau partout où il va. Pourquoi? La parole nous dit partout où il va. Parce que tu ne sais pas où il va, il peut aller là, là, là. Il y a tellement d'endroits où il peut aller. On doit prêter attention. Regarder à lui. Fixer les regards sur Jésus. On doit vraiment rester centré sur Jésus. Même si la doctrine ou l'enseignement est bon, on ne peut pas suivre juste un enseignement. Même si on est attaché à la vérité. Mais le Seigneur vivant est encore plus important à suivre. Que le Seigneur ait pitié de nous. À ce point-là, on doit vraiment aller tout le long du chemin avec lui. On doit être saint. On doit être perfectionné en sainteté et sans défaut jusqu'à l'apparition du Seigneur. C'est vraiment triste si on est arrivé jusqu'à ce point et qu'on abandonne. Ce sera triste. Ce sera vraiment triste. Nous avons besoin de marcher avec lui tout le long du chemin. C'est vraiment triste si on est arrivé jusque-là et que soudainement on arrête. C'est vraiment triste. Si on regarde en arrière, je me rappelle de tant de frères et sœurs qu'on a connus, mais qui ont arrêté. C'est triste, ce n'est pas bon. Que le Seigneur ait pitié de nous. De opérer une séparation. Continuer d'avancer. Tu dois continuer d'avancer. Même si les autres ne veulent pas continuer. Si la personne que tu aimes, ta famille, ton entourage, même ceux avec qui tu as servi pendant tant d'années. Que va-t-on faire? Nous ne les suivons pas eux, mais nous suivons l'agneau. Cette parole dans Apocalypse 14 a été très précieuse pour moi dans mon expérience, de suivre l'agneau. À la fin de la parole, on a Apocalypse 14 et Apocalypse 17. 14 nous dit, suis l'agneau partout. Et pour ça, on doit être ses vierges. Et dans nos Notre bouche, il ne doit se trouver nous. Aucun mensonge. Tu aimes la vérité et tu la suis. La vérité est très absolue. Et ensuite, non pas chapitre 17, mais chapitre 18. On a la Grande Babylone où il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Dans chacun des chapitres, c'est verset 4. Tu dois aussi sortir pour pouvoir suivre l'agneau. Tu dois sortir. De même que Abraham a dû sortir de la maison de son père, il a dû sortir du pays où il était. Tu dois peut-être sortir même de ton entourage. Pour suivre le Seigneur, tu dois sortir de pratiquement tout. Jusqu'à ce que tu atteignes le but. C'est pas si simple, mais possible. Pas simple, mais possible. Et nous devons le faire. Et le Seigneur dit, c'est un chemin étroit. Des gens vont me dire je suis étroit, mais je ne suis pas encore assez étroit. Je veux m'écraser encore pour pouvoir passer par ce chemin étroit. Parce que le chemin est étroit. Il est vraiment étroit. Et si tu as tant de bagages et de choses, tu ne peux pas marcher sur la route de la sainteté. Ne crois pas que la route de la sainteté, elle soit très large. C'est pas comme une autoroute américaine avec 9, 10 pistes. Mais la route sainte, elle est étroite. C'est une route étroite. Ce n'est pas comme l'autoroute 10 ici. Mais il y a un jeu de mots en français, en anglais. C'est le même mot pour autoroute ou pour une route élevée. C'est une route élevée et sainte. Et c'est la voie de la sainteté. Pourquoi si tu suis cela? Ne regarde pas au prix que ça va te coûter dans beaucoup de situations. J'ai dû regarder au Seigneur et non pas au prix que je devais payer. C'était vraiment important. Sinon, j'aurais... Ah, nous sommes à ce moment-là réduits pour pouvoir suivre l'agneau. Nous ne sommes pas encore perfectionnés. Ne sois pas découragé si maintenant certaines parts ne sont pas perfectionnées. Parce que nous sommes sur la voie de la sainteté. Si après quelques années tu n'es pas encore. Si dans quelques années tu n'es toujours pas diplômé, qu'est-ce qui va se passer? Tes parents vont te faire. Des reproches? Non. Tant que tu n'as pas fini le cursus, tu n'es pas diplômé. Donc le Seigneur nous a donné cette courte période de temps pour être perfectionné et atteindre le but. Alors ne perds pas plus ton temps. Car si le Seigneur revient si prochainement et il vient bientôt, parce que la sainteté est en relation avec son retour dans l'église Thessalonique, on voit qu'il les a appelés à la sainteté et qu'ils doivent garder leur vase saint. Est-ce que tu t'imagines dire ça à de nouveaux chrétiens? Souvent tu te dis, oula, si je parle de du lieu saint aux nouveaux chrétiens, ils vont fuir. Mais non. On doit apprendre. Ça, c'est le but. On doit garder notre vase saint pour le retour du Seigneur. Et pour ça, tu dois te préparer à être saint et sans reproche. Tu ne peux pas ignorer ça. Et tous les nouveaux qui viennent dans l'Église maintenant doivent entendre cela. Thessaloniciens n'était pas pour des anciens, mais pour des nouveaux croyants. Que le Dieu de paix nous sanctifie petit à petit? Non, complètement. Nous devons être sanctifiés complètement. L'esprit, l'âme et le corps, afin qu'ils soient conservés irréprochables pour le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, on voit que le retour du Seigneur est relié à la sainteté, parce que le Seigneur ne va pas tester. Le Seigneur ne va pas poser des questions quand il revient en nous questionnant. Alors, quelles sont les sept offrandes? Non. Il va regarder à quel point tu es saint. Mais si tu as juste un tout petit peu d'esprit en toi, ce n'est pas suffisant. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli par l'Esprit Saint. Tu dois gagner de l'huile. Pour être saint, c'est la sainteté est vraiment un prérequis pour entrer dans le royaume. Je crois que c'est pour ça qu'il nous révèle cela maintenant. Parce que si nous n'avons pas ce point, je ne crois pas qu'on va atteindre le but. Mais ce qu'on doit aussi réaliser, c'est que ce que le Seigneur a fait dans le passé est pour nous préparer à ce point. Comment tu appliques Ézéchiel? Et comment tu appliques Lévitique? À quoi sert la sainteté? Juste pour être saint? C'est pour ça que le mouvement saint n'a pas fonctionné. Il est juste devenu aussi commun et non sanctifié. N'importe quoi d'autre. Dans la communion avec les frères, on est arrivé à l'aspect de la consécration des sacrificateurs. Comment tu vas te consacrer sans les offrandes? Dis-moi. Comment un sacrificateur va se sanctifier sans offrande? Non, Seigneur, je te donne mon être en entier. Le Seigneur, il va te dire, bah, pourquoi faire? Tu peux chanter ce chant. C'est une jolie mélodie. Mais à la fin, qu'en est-il? Tu donnes ton être complètement. Et pourquoi? Consécration est plus compliquée. Pour ça, tu as besoin de l'offrande pour le péché, une grande. Et ensuite, l'holocauste. Et ensuite, celle de fleur de farine. Et ensuite, l'offrande de paix. Et une offrande de consécration. Donc, toutes les offrandes Sinon, comment vas-tu faire? Est-ce que c'est tout pour toi? Pour nous, ces offrandes, c'est Christ. Je suis pas en train de vous parler de bœufs, de moutons, de chèvres. Non, je vous parle pas de ça. Ça, c'était l'Ancien Testament. C'était les jours de l'Ancien Testament. Mais moi, je vous parle de Christ. La substance de Christ, qui est la réalité de toutes ces offrandes. Mais comment vas-tu te consacrer dans toutes ces choses? Dis-moi. Si tu dis, Seigneur, je donne mon être à toi. Tu dois réaliser pourquoi le Seigneur nous a donné tant de choses dans le passé. Toutes ces choses, c'est juste pour arriver à ce point. Et juste maintenant, où on arrive à ce point, on voit qu'aux yeux de Dieu, c'est vraiment pour que son peuple qui est prêt, ou presque prêt, nous soyons consacrés pour être saints, pour ce sacerdoce, ce service sacerdotal. Tu dois être prêt. Et parce que tu connais Daniel, tu sais que maintenant, c'est le temps. Comment tu sais que c'est le moment? Grâce à Daniel. Quand on parlait de Daniel, certains disaient « Oh, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on a besoin de ça ?» Ouais, t'as peut-être pas besoin, mais moi, oui. En fait, on en a tous besoin. Toutes ces choses dans le royaume Sion. Tu vois ces dessins, ces résumés qui parlent du royaume et de la fin des temps. Ils sont tous pour la préparation de ce jour présent. Et maintenant, on arrive au point où on réalise qu'on ne peut pas. On doit être saint. Et on voit que justement l'onction, c'est pas juste pour qu'on sache. Comme tu partageais ce matin, l'onction, elle est faite de quoi? Elle était comment, cette onction? Elle était sainte. Elle était pour rendre le temple entier saint. Et tout ce qui est lié au sacerdoce, c'est pas juste pour t'enseigner. Et si c'est là pour t'enseigner, ça va t'enseigner comment être saint. Et comment passer plus de... Comment être plus dans cette nature sainte. Si tu achètes un vase, un beau vase, c'est pourquoi? C'est pour y mettre quelque chose de précieux. Tu vas pas mettre une poubelle. Plus le vase a coûté cher et moins tu vas l'employer pour quelque chose de commun. Tu vas pas mettre ta poubelle dans un beau vase. Cher. Personne ne ferait ça. Ou bien est-ce que tu vas acheter un vase pour ne rien mettre dedans? Même si tu l'as séparé du magasin pour l'amener dans ta maison? Qu'en est-il? Il est sanctifié? Mais il est toujours vide. Tu dois le remplir avec des choses précieuses. Ça, c'est le processus de sanctification. D'abord, la séparation. Et ensuite, l'onction. Magnifique esprit qui va parler, qui va agir par cette onction, pour agir dans chaque détail, de chaque recoin, et sanctifier. C'est pas juste écouter. Nous avons entendu ce matin les messages. C'est pas juste pour qu'on comprenne. Et maintenant, il y a tant de choses à vraiment partager à propos de la sanctification. Maintenant, il faut que je revienne au point 1. Dieu est saint. Tout revient à ce point. Le point 2 sur le résumé. Dieu est saint. Ton Dieu. C'est pas juste Dieu. C'est pas juste Dieu le Tout-Puissant. Pour le monde, pour la création, il est le Tout-Puissant. Il a fait tant de choses magnifiques. Même des choses vraiment merveilleuses. Il est puissant. Qu'en est-il de la nature de... Regarde, il n'a même pas besoin d'envoyer une grande armée, il envoie juste un tremblement de terre. Et tout tombe en poussière. Il est tout puissant. Alors quoi ? Le seul Dieu sage. Pourquoi as-tu besoin d'un Dieu sage ? Tu vas à lui si tu as besoin d'aide. Et c'est tout. Si, Seigneur, je suis pas puissant, je sais pas, j'ai besoin d'aide pour choisir. Alors tu lui demandes, puis tu dis quoi choisir. C'est juste pour ça ? Non. Mais tu sais, Israël doit le connaître comme le Saint. Le Saint d'Israël. Parce qu'Israël doit être une nation sainte. Et le peuple doit être un peuple saint. Et la ville choisie doit être une ville sainte, comme on a vu ce matin. Et le peuple doit être un peuple saint. Tout doit être saint. Sion est une nouvelle, doit être sainte. Tout ce qui est en lien avec lui doit être saint, mais tout ce qui est en dehors n'est pas saint. Tout ce qui est païen n'est pas saint. Dieu les appelle des bêtes. Ils sont comme des bêtes. Les quatre royaumes. Ces quatre animaux. Le Seigneur les compare même à des animaux. Es-tu un animal ? Non. Seule la nation d'Israël est le royaume de Dieu. Ce n'est pas un animal, c'est un peuple saint. Tu dois voir cela. Pour le monde, il ne l'est pas. Il croit même pas en Dieu. Pour la nation d'Israël, il savait. Ils le connaissent en tant que le saint d'Israël. Mais le jour où ils ont oublié ça, alors ils sont juste devenus comme des bêtes. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a ? Tu veux quoi ? Juste qu'il te sauve de l'enfer ? Qu'en est-il de te sauver pour le... Qu'en est-il d'être sauvé pour la... pour l'éternité? Mais tu ne vois pas la véritable sanctification. Sauvé pour l'expiation. Et la nation d'Israël, quand ils ont oublié de voir ça, quand ils n'ont plus vu qu'ils étaient un peuple saint, ils devaient être saints. Ils sont devenus un peuple qui adorait des idoles. Le temple de Dieu est devenu un lieu d'adoration. Un lieu d'idolation, d'idolâtrie, d'idole. Et de vente. Et des gens étaient là pour juste acheter une position pour tant de choses. Mais Dieu est saint. Et c'est la seule manière dont il veut être connu de son peuple. Peut-être qu'on est des bonnes personnes, mais la sainteté, c'est plus qu'être des bonnes personnes. Et même si tu essayes d'être bon, tu ne vas pas pouvoir le faire. Parce que tu vas réaliser que même quand tu fais quelque chose de bien, le mal est derrière. Regarde les avions. En soi, c'est une très bonne chose. Sans ça, beaucoup ne seraient pas arrivés ici. Mais regarde, quand ça sert à envoyer des bombes, quel dégât ça fait. C'est quelque chose de bien. Mais ça peut aussi être utilisé de manière diabolique, de manière méchante. Et tout est comme ça. Conduire une voiture, c'est bien. Mais tu peux aussi tuer. Tellement d'accidents. N'importe quoi. C'est pas suffisant de juste être bon. Aussi, parmi les chrétiens, des bons enseignements, des bons messages. À la fin, regarde juste à la fin. C'est corrompu dans tous les sens. Rempli de honte. Nous ne voulons pas être comme ça. Par la grâce du Seigneur. Notre fin doit être la sainteté. Et pour ça, nous avons besoin de voir que notre Dieu est saint. Je l'ai mentionné si souvent dans le passé. Comme on voit aussi dans la prière, dans Matthieu 6. Ah non, pardon, dans Matthieu, quand le Seigneur prie, il s'appelle... Il s'adresse au Père Saint. Dieu est saint. Notre Père est saint. Et si tu apprends à dire « Oh, Père Saint », ça veut dire que tu es conscient de sa sainteté. Mais si tu pries... Mais si tu pries... Ô Dieu, ô Père, juste. Ça signifie que tu es conscient qu'il est juste. Tu es averti dans ton cœur et dans ta tête que ce que tu fais doit être juste. Et que ce que tu fais doit aussi être saint. Appelle-le Père Saint. Aujourd'hui, entre nous, on s'appelle les saints. On l'emploie si légèrement. Je t'appelle pas Saint Vincent. Je t'appelle pas Saint Vincent. Tu aimes ça? Il n'ose pas dire oui. Pourquoi? Parce que tu réalises, ouf, j'en suis pas digne. J'en suis pas là. Est-ce que je peux t'appeler Yasmine l'architecte? Pas encore. Mais qu'est-ce que tu vas me répondre? J'étudie pour le devenir. Je suis un architecte en devenir. Mais nous sommes saints parce que nous sommes séparés pour Dieu. Et c'est le premier pas. On est appelé saint. Pas juste appelé saint. En réalité, on doit encore aller à travers ce processus pour être pleinement sanctifié pour le Père en esprit et dans l'âme et dans notre corps. Souvent, on emploie ce terme, les saints. Et on est très léger. Pourquoi dis-tu ça? N'appelons pas. N'utilisons pas. Ah, nous ne sommes pas encore saints, mais nous pouvons déjà l'employer. Mais ça peut nous vraiment nous rappeler que nous devons être sanctifiés. Alors cette prière, Père Saint, sanctifie. Je veux être saint. De la même manière que tu es le saint dans l'Église. Nous sommes son Israël. Nous sommes aujourd'hui le véritable Israël. Dieu est saint. Si tu lis ces versets, nous avons besoin de connaître le Saint d'Israël. On voit dans Hébreu. Il est le Saint d'Israël. Il n'est pas juste le Saint des nations. Il n'est pas le Saint de tout cela. Non, non, non. La terre est dans la main du malin. Mais il est le saint de son peuple, sa nation, Israël. Il n'est pas juste le sauveur, mais il est le saint. Lisons ensemble juste un verset dans Ésaïe. Ésaïe 47. Ésaïe 47, verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. C'est le Saint d'Israël. On l'appelle souvent notre Sauveur. Il n'est pas juste notre Sauveur, notre Rédempteur. Mais aujourd'hui, on peut aussi vraiment l'appeler le Saint d'Israël. Et on peut continuer. Chapitre 43:3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'apprécie vraiment cela. Et verset 14.
and yeah, 15. Thus says the Lord,
14 et 15. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. De nouveau, il dit le Saint d'Israël. Et verset 15, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Amen. Notre Roi est le Saint. Le Saint d'Israël. Nous devons ajouter à notre terminologie de ce Dieu merveilleux le Saint et le mettre en haut de notre liste et l'appeler ô Père Saint. Amen. Ô Saint d'Israël, Père Saint, Père, tu es le Saint. Et maintenant, allons au chapitre 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Tu compares la puissance, il est le Tout-Puissant. La sagesse, il est l'Omniscient. Et qu'en est-il de la sainteté? On est tellement opposé à cela. On est tellement à l'opposé de sa sainteté. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous saints? C'est la peine de considérer dans la parole. Je veux le connaître comme le Saint, plus que n'importe quel aspect. Je veux le connaître en tant que le Saint. Quand j'étais plus jeune, je voulais connaître sa puissance. Oh Seigneur, je veux connaître ta puissance. Amen, amen. Pour prêcher l'Évangile, partout autour du monde, je veux connaître ta puissance. Mais aujourd'hui, je suis plus aussi jeune. Je cherche plus tellement la puissance, mais je cherche la sainteté. Je cherche vraiment cette sainteté. La puissance n'est rien comparée à la sanctification. Tu peux être très puissant, mais peu sanctifié. Par contre, si tu es sanctifié, tu auras aussi de la puissance. Mais l'inverse ne marche pas. Donc ça dépend à quoi tu regardes en premier. Et comment tu apprécies cela. On apprécie tous différents aspects. Quand on est jeune, on apprécie certains aspects. Mais quand on devient plus âgé, notre appréciation change. Surtout maintenant que le Seigneur revient bientôt. On doit voir qu'il est le Saint d'Israël. Et là, on voit au dernier verset. Au dernier verset, Ésaïe, chapitre 12. Verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Amen.
Laisse-moi te dire. Quand on est saint, quand l'Église est saint, il est au milieu de nous. On n'a pas une église vivante où tout le monde saute. J'étais comme ça avant. J'étais très, très plein de vie à sauter sur place. Maintenant, je ne saute plus sur place. C'est bien que je n'arrive plus à sauter.
Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitantes de Sion. Si l'Église devient glorieuse et nous l'exprimons, alors nous ne serons pas attachés. Ça va éloigner l'ennemi. On ne devra pas tellement se battre. Mais toute l'Église sera revêtue de puissance. Non? Elle sera revêtue de sanctification. Tu dois être sanctifié en tant que soldat. Tu peux imaginer l'ennemi s'il doit faire face à une armée sainte. Il va fuir. Il va même pas essayer d'attaquer. Mais il va complètement fuir. Se détourner. L'armée du Seigneur est entièrement revêtue de blanc. Elle est sainte. Le Saint d'Israël est au milieu de toi. Il est grand. Il est grand au milieu de toi. Ça signifie qu'on doit connaître Dieu, notre Dieu, comme le Saint. La sanctification, c'est la beauté de l'Éternel. Rien n'est plus beau. Aux yeux de l'Éternel, rien n'est plus beau. Je ne sais pas ce que toi tu apprécies. Tu apprécies les témoignages, les magnifiques offrandes. Mais ces offrandes, elles ne sont pas pour toi. Elles sont pour Dieu. Qu'est-ce que tu apprécies? Un bon message? Une bonne interprétation de la parole? C'est bien. Ça va, oui. C'est bien aussi. C'est aidant. C'est bon, c'est joli, c'est nécessaire, c'est bon de connaître la vérité, c'est bien de comprendre, c'est magnifique. Mais est-ce que tu apprécies comment est-ce que tu apprécies ça? Est-ce que tu apprécies l'orateur plus que le contenu? Tout le monde est tombé là-dedans. C'est la nature humaine. Mais la beauté est corrélée à la sanctification. Mais quand Paul a parlé à Corinthe, quand Paul a donné un message à Corinthe, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il sautait sur place? Non. Il était dans la crainte. Il les a encouragés à à la crainte, la purification, la sanctification, sans rien attendre de personne, parce que ce il attendait rien parce que il ne méritait rien parce que c'était pas son expression, c'était l'expression de la sainteté de l'Éternel. C'est l'expression du Saint d'Israël. Mais aujourd'hui, qui est préoccupé par ça? Qui s'occupe de ça? Qui s'occupe des messages? On s'inquiète de comment les gens nous regardent. On se dit, oh, celui-là, c'est un homme fier qui se tient devant nous. Mais bon, son message est bon. Mais il croit qu'il sait tout. Il est fier. Si ça, c'est le cas, alors quand on partage l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est content? C'est vraiment incroyable comment les apôtres ont vu cela. Ils sont venus à Corinthe, non pas comme des super apôtres, pas comme ceux qui étaient envoyés par Dieu. Nous, on est les apôtres. Moi, je suis Paul. Dieu m'est apparu. Mais il est venu là, dans la sainteté, juste comme le Seigneur était venu sur terre, dans la sainteté. C'est la beauté de la sainteté. Ne regarde pas comment la personne est capable, combien de connaissances elle a. Non, c'est pas ça. On donne en fonction des capacités que le Seigneur nous a données. Mais on a surtout besoin de voir l'expression de sa sainteté. À son image. J'espère que partout où on va, les gens peuvent voir Dieu en nous. C'est bien plus efficace que des dizaines de messages, même les plus clairs. Et ensuite, ils peuvent t'imiter à être comme Christ. Amen. Oui, le Seigneur, la beauté de la sainteté. Amen. Est-ce que nous avons vu déjà ce matin? Parce que Dieu est saint. Le lieu où il demeure doit être saint. Okay. Si tu es chaotique, à quoi va ressembler ta maison? Ta maison va être à ton image. Tu seras à l'image de ta maison ou ta maison sera à ton image. Donc, puisque tu es le lieu où demeure Dieu, tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc Dieu demeure en toi. Le lieu où il habite, c'est nous. Nous devons avoir ce roi. C'est plus simple de dire, oh oui, le lieu où il habite est saint. Maintenant, le Nouveau Testament, nous, individuellement, nous sommes, en tant que, quand nous nous réunissons, nous sommes l'Église, nous sommes des pierres vivantes, édifiées en une maison spirituelle, donc, individuellement, mais aussi corporativement. Nous devons être saints. Le lieu où il vit doit être saint. Et comme ça a été partagé ce matin, ça doit même être le lieu le plus saint. Ça signifie qu'il y a des étapes de sanctification. Il y a des niveaux de sanctification. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint, le saint des saints, le lieu le plus saint. Et Dieu demeure dans le lieu le plus saint. Hébreux 10 dit que nous avons de la hardiesse par son esprit pour entrer dans le lieu saint. Est-ce que du coup on court juste tous dans le lieu très saint tel qu'on est? Non, non, tu dois être saint, sinon tu meurs. On a tendance à s'arrêter là, on ne lit pas plus loin. Mais notre corps doit être lavé par l'eau pure et vivante. Et on doit être sauvé par les pour les expiations. Mais après que tu aies été lavé, que tu sois passé à travers du jugement, alors là, tu peux encore être vivant, mais si tu es mort dans le lieu saint, alors tu dois juste être tiré dehors. C'est comme ADP Abiou. Seigneur Jésus, Père Saint, sa demeure est sainte. Beaucoup de versets nous le montrent. Et ensuite, on voit qu'il parle dans la sainteté. Souvent, on réalise qu'on ne parle pas dans la sainteté. À la maison, en dehors des réunions, à la maison. Mais Paul le dit. Ça ne devrait même pas sortir de nos lèvres. Mais tant de choses sortent de nos lèvres. On n'a aucun contrôle même de ce qui sort de notre parole. Notre parole n'est pas sanctifiée. On doit apprendre que nos lèvres soient sanctifiées. Il parle dans sa sainteté. Point 2b3 du résumé. C'est pourquoi j'aime pas. C'est la raison pour laquelle j'aime pas faire de longues prières, c'est que plus elles se rallongent, moins elles sont saintes. Il y a tellement de choses que j'ai pas besoin de lui dire. Mais tu peux arrêter. T'as pas besoin de beaucoup prier longtemps. Tu dis ce que tu as à dire et ensuite tu tais. Dans une conversation, tu continues pas de parler sans cesse.
Sinon, tu es en train de faire un exposé. Et ton interlocuteur finit par s'endormir. Mais il parle dans sa sainteté. Sa parole est sainte. Surtout quand il s'agit de la parole. Nous avons besoin de respect pour sa parole. Ceux qui tremblent pour sa parole.
Some people have heard us saying this and they criticize us. Oh, they don't enjoy anymore, they tremble at this word.
Certains nous ont entendu dire ça et ils ont dit, oh, ils apprécient plus la parole, ils y tremblent. Bien sûr, on l'apprécie aussi. Mais on a une crainte et des tremblements de ne pas lui obéir. Que nous ne fassions qu'écouter. Sa parole est sainte, mais mes oreilles et mes pensées sont très peu saintes et ça ne colle pas avec sa parole. Ne crois pas que Dieu parle parce qu'il aime parler. Il parle. C'est pour ça qu'on a le psaume 105, 42. Des paroles saintes. Et point 4, il jure par sa sainteté. Il ne promet pas juste n'importe quoi. En indiquant, les promesses sont faites pour ne pas être tenues. Non. Ne promets pas à ce moment-là et ne prends pas les promesses des gens parce qu'elles sont faites de manière à ne pas être tenues. Ça, c'est parce qu'on n'est pas saint. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, quand il le jure, il le jure par sa sainteté. Il le dit. Il le dit et il va le faire. C'est pourquoi nous croyons dans sa parole. C'est possible à croire. Crois de tout ton cœur. Il l'a dit, il le fera. Point 5, il est assis et règne sur le trône de sa sainteté. Bon. Même avoir des responsabilités dans l'Église, c'est pas fait avec sanctification. Et souvent, c'est fait d'une manière corrompue. Nous ne devons pas juste décider. Nous avons une responsabilité pour la sanctification. Sinon, toute l'Église va avoir des troubles. Ça va tordre la vérité. Ce sera corrompu. Et ensuite, les choses sont faites pour ta propre position, alors que tu n'es personne. Beaucoup de corruption, mais pas le trône de l'Éternel. Son trône est ton trône de sainteté. Et de justice. C'est pourquoi nous devons croire le Saint d'Israël. Tout ce qui est fait par lui a la marque de sa sainteté. Alors apprenons, parce que maintenant il nous entraîne à devenir le sacerdoce saint et royal, afin d'y entrer. Et son unique chemin, le dernier point.
son chemin unique, le chemin de la sainteté. Quel Dieu merveilleux, un Dieu saint, le Dieu saint d'Israël. Nous devons le connaître. Louons-le pour sa nature divine. C'est pourquoi tout ce qui est relié à lui doit être saint. Louez le Seigneur. Amen. On peut encore prier.